Neuf. Présenté par Canabec. Les 6, 7 novembre, c'est la grande vente d'entrepôt Canabec. Rabais imbattable. Cuisse de canard confite, médaillon de serre, magret de canard, tomahawk, de bison. Canabec, 115 des Grands Lacs, à Saint-Augustin. Choix.
Choix.
98.
98.
1. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion.
Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X. Files.
Avec Christian Page.
Oh my gosh.
Radio X.
Tout le monde ne parle que de ce maniaque qui attaque de jeunes couples la nuit. Il peut encore frapper.
Je dois l'arrêter.
Qu'on reprenne toutes les affaires qui ont des similitudes avec les nôtres. Nous pensons avoir trouvé un lien. L'arme qui a tué tous les couples de 74 à nos jours apparaît dans d'autres affaires.
Il y a un témoin oculaire. C'est le seul à avoir vu le visage du tueur.
Qui essayez-vous de protéger?
C'est toi qui as tué Barbara.
Ce sont des meurtres contre les femmes. Cette violence cible spécifiquement les femmes.
Je peux te faire souffrir à mon tour.
Nights in white satin, never reaching the end.
Je t'ai fait peur.
Cause I love you. Yes, I love you.
Le moindre faux pas. La vie à des innocents.
Bon vendredi soir à vous tous. Bienvenue dans les Radio X-Files. Ce soir, au menu, je vous dirais qu'on va parler des énigmes de l'histoire. Pour en parler, Christian Page. Bonsoir, bon vendredi.
Salut. Bonsoir, Nick.
Comment vas-tu?
Ça va bien. Et je vais faut tout de suite mentionner aux auditeurs que non, ils ne sont pas en train d'écouter une reprise des Suspects X.
Non, c'est
même
ça.
Même si on commençait avec une histoire de meurtre, comme tu le dis si bien, c'est une émission qui est consacrée aux énigmes de l'histoire. Et l'histoire, ben, ça peut être bien sûr le 17e siècle, le 12e siècle, mais ça peut être aussi les années 60, les années 80. Et aujourd'hui, ben, ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande-annonce d'une nouvelle série, une série en 4 épisodes qui est présentée sur Netflix, qui vient tout juste de prendre l'affiche, et qui s'intitule « Le monstre de Florence ». Et, bon, évidemment, c'est une histoire de meurtre. Ça se passe quelque part entre les années, la fin des années 60 et le milieu des années 80. Mais c'est une histoire qui m'avait quand même beaucoup fasciné. Quand j'ai fait, il y a quelques années, ma série des tueurs de l'occulte pour Canal D, j'avais consacré un volet aux tueurs de Florence. Je suis allé à Florence, j'ai visité les lieux des crimes et j'ai rencontré plusieurs personnages qui ont été impliqués de près ou de loin dans cette série de crimes ou dans l'enquête policière. Et l'affaire, si on entre immédiatement dans le vif du sujet, oui, dans cette histoire du monstre de Florence, bon, d'abord, il serait peut-être intéressant de rappeler aux gens de quoi on parle ici. On
oui,
parle
qui d'une est-il? Série... Parce ouais, que voilà, j'ai aucune idée qui est le monstre de Florence.
Ouais, en fait, le monstre de Florence est un assassin, un tueur en série qui a sévi, je dis un tueur en série ou des tueurs en série parce que on n'a jamais mis le grappin vraiment sur le bonhomme en question, sur lui, les commanditaires ou les gens qui étaient derrière ses meurtres, ou peut-être même l'assassin lui-même, parce que, bon, la justice italienne est très particulière. Hein, la justice italienne... on peut vite t'accuser d'à peu près n'importe quoi, puis on peut te mettre en la garde à vue. Là, tu sais, la garde à vue en Italie, ça peut durer 25 ans. Là, tu sais, tu peux être en garde à vue pendant 25 ans dans un cachot. Là, tu sais, là. Donc, bref, ce sont des meurtres qui ont été commis entre 1968 et 1982. Ce sont des meurtres très particuliers, comme tu vas le voir. Les autorités italiennes ont poursuivi plusieurs personnes. Autrement dit, ils ont arrêté plusieurs personnes suspectées d'être le ou les monstres de Florence. Et l'histoire s'est embrouillée avec le temps. Tout le monde a dénoncé tout le monde. Les autorités ont mis de la pression sur des individus en particulier sur lesquels on a monté des dossiers qui n'avaient rien à voir. C'est une affaire qui est devenue excessivement embrouillée. Et éventuellement, au moment où on se parle, il y a Mario Vanni et Giancarlo Lotto qui ont été condamnés à 4 des 8 doubles meurtres. Hein, parce qu'ici, on parle essentiellement de doubles meurtres. Donc, essentiellement des amants qui ont été surpris dans leur voiture en train de faire l'amour. Et ils ont été surpris par le tueur qui les a abattus.
Ah ouais, quelle histoire!
Sauf un, le dernier couple, en fait, eux étaient dans une tente. Hein, ils avaient installé leur tente.
Oui.
Ils ont été assassinés quand même dans leur tente. Mais les autres ont tous été assassinés alors qu'ils étaient dans des voitures. Et quand on dit le monstre de Florence, on s'entend bien, les meurtres ont eu lieu sur les hauteurs de Florence, pas dans la ville même de Florence. Mais quand on commence à quitter Florence, il faut savoir que Florence est entourée de montagnes. Quand on monte dans les montagnes, évidemment, ce sont des lieux qui sont excessivement prisés par les amoureux. Donc, on se retrouve là pour... c'est ce qu'on appelait aux États-Unis des « lover's lane », hein?
Les endroits pour s'aimer, ouais, c'est ça?
Oui, ouais, voilà, c'est des endroits pour s'aimer, comme tu dis. Ouais, donc, les gens allaient là et ils ont été surpris. Dans les gens qui ont été condamnés, comme je te dis, il y a Mario Vanni et Giancarlo Lotto qui ont été accusés en 2000 de 4 des 8 doubles meurtres. Je n'entrerai pas dans les preuves qui ont été présentées. C'est très boiteux. Écoute, je te le dis, j'ai été estomaqué de voir comment ces dossiers ne reposaient pratiquement sur rien. Déjà, en 1994, les autorités avaient déjà arrêté un type qui s'appelait Pietro Paciani. Il l'avait arrêté comme étant celui qui était coupable des meurtres commis entre 1974 et 1975. Et il a été acquitté en 1996. Il a fait appel. C'est un personnage quand même, faut le reconnaître. Tous les gens qui ont été arrêtés par les autorités policières, ce sont tous des personnages méprisables. Hein. Ça veut dire on est allé chercher dans de la racaille.
Oui.
Donc, Paciani avait déjà été arrêté pour le meurtre de l'amant de sa femme dans les années 60. Il avait été également reconnu coupable de viol sur ses propres filles. Donc, c'est un individu qui était méprisable. On l'a donc arrêté à nouveau en 1994. On l'a accusé d'être responsable des doubles meurtres commis entre 1874 et 1985, et il a été acquitté en appel en 1996, remis en liberté, mais il est décédé. Alors, il était en attente d'un nouveau procès. Le parquet de Florence avait demandé un nouveau procès. Et en 1996, Paciani a été retrouvé mort chez lui. Bon, les autorités, officiellement, il est mort d'une crise cardiaque, mais il a été retrouvé, je le dis comme ça, là, dans des dossiers policiers, il a été retrouvé mort dans sa cuisine, étendu, les pantalons baissés jusque sur les chevilles. Donc, tu sais, quand tu fais une crise cardiaque, tu baisses pas tes culottes juste avant. C'est quand même, quand je dis mort dans des circonstances... dans des circonstances nébuleuses. C'est des crimes qui sont excessivement complexes. Et moi, personnellement, si je fais une critique de la série, j'ai pas aimé la série. J'ai pas aimé la série parce qu'on focalise sur essentiellement la relation qui va découler d'ailleurs éventuellement aux condamnations de Mario Vanni et Giancarlo Lotto. Mais il y a plein d'autres avenues qui sont pas explorées là-dedans. Et en réalité, pour être honnête, la police de Florence ne le sait pas qui est le tueur de Florence, le monstre de Florence, mais pour faire l'opinion publique, la pression venant des autorités et des pressions politiques ont forcé le parquet de Florence à trouver des gens pour les accuser des meurtres. Et une fois que ces gens-là ont été accusés, en échange de toutes sortes de peines ou de grâces, etc., ils se sont mis à dénoncer à peu près n'importe qui. On a inventé des dossiers sur tout le monde. C'est assez pathétique. On sait ce que l'on sait, il y a une espèce de fil conducteur qu'on n'arrive pas trop à comprendre. Les victimes, toutes les victimes ont été tuées par un pistolet de calibre 22, un Beretta. Et le Beretta, le tueur a toujours utilisé des balles de type Winchester avec un H dessus. Et c'était un vieux lot, là, un vieux lot des années 60. Même les meurtres commis dans les années 70 et 80, les gens ont été tués par des balles Winchester tirées avec le même sapristi de pistolet calibre 22 Beretta. Donc, il y a comme cette espèce de lien. Mais tu vas vite le comprendre. Le maudit pistolet, il semble changer de main à tour de bras. On n'arrive pas à suivre la piste du pistolet. Pistolet, d'ailleurs, qu'il faut l'avouer, on n'a jamais retrouvé. Hein. On signe qu'à un moment donné, un tel a le pistolet ou un autre aurait eu le pistolet. Mais encore une fois, comme aucun d'entre eux n'a jamais été trouvé avec le pistolet en sa possession, ben ça devient des dénonciations. Où Marcel dit qu'il a vu Maurice avec le pistolet de calibre 22, mais on n'a jamais trouvé Maurice avec le pistolet de calibre 22. Tu comprends un peu la dynamique un peu là-dedans. On sait que les victimes, parce que bon, dans le cas du monstre de Florence, il porte bien son nom, monstre de Florence, non seulement on a l'impression que tous les meurtres sont utilisés par un pistolet de calibre 22, le même pistolet Beretta. Et c'est d'ailleurs ce que l'on entend un peu dans la bande-annonce. On dit « Ah, l'arme a été utilisée dans plusieurs autres crimes. » Encore là, la réalité, c'est pas tout à fait ça. Écoute, je pourrais t'en parler pendant des heures, là. À un moment donné, on n'a absolument aucune piste, une lettre anonyme. Un citoyen concerné dit à la police que cette arme-là a pu être utilisée dans d'autres crimes. Et par une espèce de miracle, c'est vrai qu'on est en Italie, puis le Vatican n'est pas trop loin, mais par une espèce de miracle, on trouve dans un dossier de police une petite enveloppe avec 6 cartouches tirées avec le pistolet. Cartouches qu'on n'a jamais vues, puis on ne sait pas comment ils ont atterri dans ce dossier-là, mais mon Dieu, c'est la manifestation du Saint-Esprit qui fait apparaître des cartouches d'un dossier de la police. C'est un peu invraisemblable, ben oui, cette histoire-là. Mais bref, les meurtres, le seul meurtre dont on a une vision assez précise du crime, et pour ce meurtre-là, alors qu'il n'a peut-être d'ailleurs rien à voir avec le reste de la séquence. Hein? Le premier meurtre, il est commis dans la nuit du 21 au 22 août 1968. À ce moment-là, on a un couple, Antonio Lobianco, et Barbara Lozzi, qui sont dans une voiture. Bon, on fait ce qu'on a à faire. Il faut dire que dans cette même voiture, il y a le fils de Barbara Lozzi, qui s'appelle Nataline Melle, qui a 6 ans, qui lui dort sur la banquette arrière pendant que sa mère se livre à des ébats sexuels sur la banquette avant avec son amant. Parce que Barbara Lozzi, elle est mariée à un dénommé Stefano Melle, qui est d'ailleurs plus âgé qu'elle et qui est le père du petit garçon qui dort sur la banquette arrière. Mais Barbara Lozzi était surnommée à Florence l'abeille. Donc, tu as compris un peu ce que ça signifie, hein? Bon. Et donc, notre abeille se retrouve avec un amant un peu de passage qui s'appelle Antonio Lobianco. Elle est dans cette voiture, ils font l'amour. Et à un moment donné, quelqu'un s'approche de la voiture et va les abattre avec le pistolet, le fameux Beretta de calibre 22. Et après ça, il va quitter les lieux. Ce qui est important de retenir ici, il n'y a pas de mutilation. Et tu vas bien comprendre pourquoi je dis ça. Il n'y a pas de mutilation. Le couple est simplement abattu avec une arme de poing. Il est abattu à bout portant et l'enfant est laissé sur la banquette arrière. Contrairement à ce qu'on essaie de nous montrer dans le film, que l'enfant a été guidé vers un lieu, c'est pas vrai ça. Okay. En réalité, l'enfant est sur la banquette arrière, il est réveillé par les détonations, il voit sa mère et son amant abattus et un homme s'enfuir dans les buissons. Il va sortir de la voiture. Il va marcher sur 2 kilomètres pour aller rejoindre une ferme parce qu'il va descendre finalement la colline de Florence pour se rendre à la première ferme qu'il voit. Et là, il va cogner à la porte, un petit garçon de 6 ans. Puis là, il dit que sa mère a été... En tout cas, il y a un drame qui est arrivé. Et c'est comme ça que les policiers vont retrouver la voiture avec le couple abattu. Pour ce meurtre-là, c'est très, très important de mentionner, évidemment, dans une situation comme celle-là, le mari est toujours le premier suspect. Et c'est exactement ce que les autorités vont faire. Ils vont aller voir Stefano Melle, comme je l'ai mentionné, qui est le père du petit garçon, le mari officiel de Barbara Luzzi. Il est, comme je te l'ai dit, il est un peu plus âgé qu'elle. Et après avoir été cuisiné par la police, entends ce que tu veux, il va admettre être le responsable du crime. C'est lui qui dit avoir assassiné. Par contre, les policiers ne retrouveront jamais en sa possession le fameux pistolet. Et donc, Stefano Melli, donc accusé, jugé, il est condamné à 16 ans de prison et il va être remis éventuellement en liberté. Les autorités vont essayer de l'associer à d'autres crimes du monstre de Florence, mais ils n'y arriveront pas. Et qui plus est, et ça c'est un truc qu'on nous dit jamais dans cette sapristie série de Netflix, je vais dire un gros mot, c'est que pendant que Stefano Melli est en prison, il y a d'autres gens qui se font tuer. Durant les 16 ans qu'il est en prison, là, il y a d'autres gens qui se font tuer avec toujours le même sapristi de Beretta 22.
Donc il y a un peu de lâcheté de la police, oui.
Ouais, ou bien ça, le fait que d'autres meurtres sont commis avec le même pistolet, ou bien ça le disculpe, parce que, bon, le pistolet est pas en sa possession, ou bien les experts en balistique ont mal fait leur travail, puis que finalement, n'importe quel Beretta 22 peut faire la job, ou n'importe quelle balle de type 22 peut faire la job. Je sais pas trop, mais il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire-là. Donc, justement, alors que ce Stefano Melli est en prison, les meurtres du monstre de Florence, qui n'ont peut-être rien à voir avec ce double assassinat là, que je viens de te raconter, là, celui d'Antonio Blanco et Barbara Luzzi, alias l'abeille, les autres meurtres n'ont peut-être strictement rien à voir, parce que tu vas voir que, mis à part qu'il s'agit d'un couple dans des voitures, c'est à peu près là que est le pistolet. Il y a le sapristi pistolet, à en croire les policiers, qui n'arrêtent pas de rebondir. Mais en dehors de ça, les autres meurtres sont quand même très différents. Hein? Le 14 septembre 1974, je te rappelle que Stefano Melli, à ce moment-là, est en prison pour le meurtre d'Antonio Lobianco et Barbara Luzzi. Il y a un couple, Pasquale Giantilcore et Stefanie Pazzini, qui sont assassinés sur les hauteurs de Florence, dans leur voiture. L'agresseur, puis là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on est l'heure du souper, là, puis je ne vais pas écœurer personne, là. Mais ce sera d'ailleurs toujours le même modus operandi utilisé par le monstre de Florence. Il s'approche des voitures avec son pistolet, les abat l'homme en premier, la femme, ensuite. Et si elle n'a pas tenté de se fuir, parce que beaucoup des femmes ont réussi à sortir de la voiture, faire quelques pas à l'extérieur de la voiture. Elles sont abattues avec toujours le même pistolet, l'arme de poing, et ensuite, elles sont mutilées, mais sauvagement mutilées. Et principalement, l'assassin, il faut quand même le dire, il enlève les organes génitaux. Il enlève les organes génitaux qu'il garde. Et pour une raison qui reste un peu mielleuse, il s'attaque également au sein, mais particulièrement le sein gauche. Comme s'il y avait une espèce de fantasme autour du sein gauche.
Okay.
Donc, on a ce crime le 14 septembre 1974. Ensuite, il y a un arrêt assez important, hein, pratiquement 7 ans. Et là, le 6 juin 1981, Giovanni Foggi et Carmela Donozio sont à nouveau, eux aussi exactement le même modus operandi, sont dans leur voiture en train de faire l'amour. Un homme s'approche, abat l'homme en premier, qui est Foggi. Ensuite, il abat Donozio, qui est tiré de la voiture, et elle aussi, elle est mutilée. Exactement, toujours de la même façon. L'assassin enlève les organes génitaux et il mutile les seins, principalement le sein gauche. Et il va refaire exactement la même chose le 22 octobre. Là, on voit que les meurtres, à partir de 1981, ils vont s'accélérer. On a le premier meurtre qu'on attribue au monstre de Florence, mais qui, à mon avis, ne fait peut-être pas partie de la séquence. C'est celui de Luzzi en 1968. Ensuite, on a ce meurtre qui se produit le premier en 1974. Et ensuite, on fait ce bond 6 ans en avant, on se retrouve en 81, et là, tu vas voir, là, la séquence s'accélère. Donc, on a, après le meurtre de Donozio, le 22 octobre 1981, donc 4 mois, 5 mois plus tard, le même tueur assassine Stefano Baldi et Susanna Cambi. Cambi, qui est la femme, est mutilée à son tour. Et ensuite, le 19 juin 1982, donc là encore une fois, on est 7-8 mois plus tard, il remet ça. Cette fois, il assassine Paolo Minardi et Antonella Migliorioni. Mais à ce moment-là, probablement que l'assassin est dérangé. Parce que lorsque les les policiers vont trouver la voiture, elle est tombée dans un fossé. On a l'impression que le couple ont dû voir un homme s'approcher de la voiture et ils ont tenté de fuir. Tu comprends? La voiture n'est pas stationnée sous un arbre, dans un petit endroit tranquille. Elle a littéralement fait un accident. Elle a dérapé et elle est tombée dans un petit fossé. Et Paolo Minardi, lorsque les policiers arrivent, il est toujours vivant, mais il est inconscient et malheureusement, il va mourir à l'hôpital sans avoir pu expliquer ce qui s'était passé. Quant à Antonella Migliorini, excusez-moi pour les gens qui sont... si ma prononciation italienne n'est pas très bonne, mais de son côté, elle n'est pas mutilée. On la retrouve aux côtés de la voiture, elle a ouvert la portière, elle est tombée dans le fossé, mais elle n'a pas été mutilée. Visiblement, pour une raison X ou Y, l'assassin a été dérangé. Mais encore une fois, ici, même s'il n'y a pas eu mutilation... L'arme utilisée est un Beretta de calibre 22, possiblement le même Beretta utilisé dans les crimes précédents. Ensuite, on avance, on est 4 mois plus tard, on est dans la nuit du 9 au 10 septembre, non, on est un an et quatre mois plus tard, dans la nuit du 9 au 10 septembre 83, il va assassiner Wilhelm Meyer et Jans Unruh. Ce sont deux Allemands. Ici, c'est intéressant parce que les deux Allemands étaient des homosexuels. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire dans leur petit camping-car. Mais un des deux hommes, Roche, avait les cheveux très longs, blonds et très longs, puis il était très, très slim. Ils ont été abattus par un calibre 22, la même arme, et les policiers pensent que, de l'extérieur, l'assassin les a pris pour un couple. Hein, ils étaient dans le véhicule. On peut imaginer que les vitres devaient être un peu embuées. Ouais. Ils voyaient des silhouettes, dont l'une avait les cheveux longs. Il a supposé que c'était une femme. Il s'est approché, il les a tirés. Et après les avoir abattus, il a constaté en fait que c'était deux hommes. Donc, il n'y a pas eu de mutilation à ce niveau-là. Et ensuite de ça, on avance de quelques mois en avant. On est le 29 juillet 1984. Là, on a encore une fois un couple, Claudio Stefanazzi et Pierre Rontini, qui vont être eux aussi abattus, même circonstances, voiture, on est en train de faire du necking, ils sont abattus avec une arme, et dans le cas de Pierre Rontini, elle est elle aussi tirée de la voiture, mutilée, avec toujours la même signature de l'assassin. Et ensuite, l'année suivante, dans les nuits du 7 au 8 septembre 1985, on a Jean-Michel Kradalchelvili, j'ai de la misère avec ce nom-là, et Nadine Morio. Ce sont deux Français qui étaient en voyage en Italie. Et c'est eux, contrairement à tous les autres qui étaient dans des voitures, eux avaient installé leur tente. Ils étaient dans leur tente, d'après ce que les policiers ont pu constater sur place, ils étaient probablement aussi en train de faire l'amour lorsque l'assassin s'est approché et les a abattus. Dans le cas de Nadine Morio, il y a eu également mutilation. Et à partir de là, l'assassin va cesser de commettre ses crimes. Quelques semaines après le meurtre de Morio, le parquet de Florence va recevoir une lettre où l'auteur a pris des lettres qu'il a découpées dans des journaux pour les coller sur l'enveloppe et coller sur une feuille de papier là, pour faire la lettre. Et là-dedans, il dit qu'il est le monstre de Florence. Et pour prouver qu'il est le monstre de Florence, il a envoyé également une partie d'un mamelon qu'il a prélevé sur une des victimes. Et après ça, ben, le monstre de Florence ne réapparaîtra pas. Et là, les policiers vont aller dans toutes les directions pour essayer de comprendre qui est derrière ces crimes-là. Et malheureusement, dans le cas de la série de Netflix, on ne suit qu'une seule piste, alors qu'il y a eu plein d'autres pistes qui ont été suivies, qu'on n'a pas évoquées. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient bonnes, mais il y avait d'autres pistes qui étaient intéressantes. Et l'une des pistes qui, moi, m'avait intéressé, c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais utilisée dans Crime occulte, l'une des pistes était que les meurtres étaient des meurtres commandés pour pouvoir récupérer des organes génitaux pour faire des rituels sataniques. Et ça s'est vu ailleurs. Hein? Les éventreurs de Chicago ont fait exactement la même chose. Mais le fait qu'on ait ciblé des organes très particuliers pour commettre, lorsqu'il y avait ces mutilations, ce qui a amené les autorités à croire qu'il y avait peut-être un aspect satanique derrière ces crimes. Même si sur les lieux des crimes, on n'a rien trouvé, pas de graffiti ou quoi que ce soit, qui laisse supposer un lien satanique, mais... On se pose la question pourquoi conserver ces fameux trophées macabres, trophées d'ailleurs qui n'ont jamais été trouvés là. On n'a jamais retrouvé ça nulle part. Chez aucun des suspects que la police a arrêté, on n'a jamais trouvé aucun de ces éléments-là. On a évoqué, bien sûr, la piste satanique. D'autres ont évoqué une espèce de piste un peu ésotérique, maçonnique et autres. On n'a rien trouvé dans ce sens-là non plus. Et il y a un événement qui s'est produit à peu près à la même époque, qui s'était produit à Milan. Et là, c'était les crimes d'un groupe de jeunes qui étaient passionnés de musique heavy metal et qui s'appelaient les Bêtes de Satan. C'était le nom qui s'était donné. C'était des adeptes du satanisme. Et lorsqu'ils ont commis le crime, là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est sordide, mais quand ils ont été arrêtés éventuellement, l'un d'entre eux, qui était le leader du groupe, a laissé sous-entendre qu'il y avait en Italie une société occulte qui commandait des crimes. Donc, évidemment, et comme ça se passe en même temps que les meurtres de Florence, certains ont fait le lien. Est-ce que ce type-là... Il y avait dans l'air du temps cette idée-là qu'il y avait en Italie une espèce de communauté satanique qui aurait pu commettre des crimes comme cela. Mais on est ici dans un crime qui est très, très riche. Et je pense que si moi j'avais fait une série, ben j'aurais essayé d'exploiter ces avenues qui étaient très très riches. Même si elles amènent à des cul-de-sac, c'était quand même des avenues qui étaient très riches puis qui auraient mérité d'être exploitées plutôt que de cibler qu'une seule piste, finalement qui ne mène strictement nulle part. Fait que voilà, c'était mon commentaire à propos des meurtres de Florence, qui, à mon avis, méritait quand même d'être commenté ce soir.
Très intéressant. Moi, ce que je trouve étonnant, ce que je comprends de ces meurtres-là, c'est que ça se passait généralement, sensiblement, au même endroit ou dans les mêmes circonstances. Pourquoi les gens continuent d'aller là? Je me dis, ça devait être quand même médiatisé, je sais pas.
Oui, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, il y a eu une énorme campagne de médiatisation par les autorités italiennes pour dire aux jeunes, n'allez pas sur les montagnes de Florence, n'allez pas dans ces fameux Lover's Lane, c'est dangereux. Mais bon, même si on interdit ça, il y a toujours des gens qui se disent non. Puis d'autant plus que les policiers arrêtaient des suspects, puis évidemment, ils médiatisaient le fait qu'ils avaient arrêté un suspect. Fait qu'à partir du moment où on arrête un suspect, on dit, bon, on a arrêté un suspect qu'on croit être le monstre de Florence. Bien, les jeunes se croient à ce moment-là qu'ils sont libres, qu'ils sont à l'abri, que le monstre de Florence a été arrêté, mais en réalité, il ne l'a jamais été. D'ailleurs, au moment où on se parle, ce qui n'est pas dit non plus dans cette émission, dans cette série, c'est que il y a au sein des autorités policières de Florence, il y a pratiquement 50 % des policiers qui sont persuadés qu'on n'a jamais arrêté l'assassin de Florence, le monstre de Florence, mais le dossier, il est toujours ouvert. Aussi récemment que 2020, hein, on est loin, on est proche, là. 2020, on a arrêté un plombier qui a été accusé d'avoir commis 6 meurtres sur des prostituées et les policiers y ont trouvé des liens avec les meurtres de Florence. Donc, tu vois, l'affaire est... Même si... Puis c'est quand même étonnant. On arrête le plombier et là, on le suspecte d'être le tueur de Florence. Mais dans le fond, tu te dis, mais pourquoi ils suspectent d'être le monstre de Florence puisqu'ils ont techniquement arrêté le monstre de Florence qui croupait en prison? Mais tu vois que quelque part, il y a un insatisfaction. Il y a des éléments qui manquent à cette investigation et tant qu'on n'aura pas trouvé les cordes pour rattacher tout ça, l'affaire reste très, très, très mystérieuse.
C'est tellement mystérieux qu'on peut se poser la question également. Bon, ça, on pourra se la poser durant la pause. Est-ce que ça pourrait être un ou des policiers même à l'origine de ces meurtres-là?
Toutes les avenues sont possibles. Tu sais que dans l'histoire des tueurs en série, c'est assez rare que des tueurs vont cibler comme ça des couples dans des voitures. Hein?
Ouais.
On en connaît que quelques-uns là, qui, dans toute l'histoire des tueurs en série, il y a eu le célèbre tueur du Zodiac à la fin des années 60 dans la région de San Francisco. On a eu au début des années 80 le Son of Sam, David Berkowitz, qui ciblait également des couples dans des voitures. Mais on comprend que c'est très risqué d'abattre comme ça à partir d'un endroit public, des couples dans des voitures en approchant du véhicule, comme le faisait le Zodiac ou comme le faisait Berkowitz. Donc, ça reste très particulier. Et il y a encore aujourd'hui, à Florence, une grande insatisfaction sur comment l'enquête a été menée et le fait que pour la plupart des Florentins, il est clair que l'assassin n'a jamais été arrêté. Et on ignore toujours les motivations, les commanditaires ou quoi que ce soit. Mais bref, j'ai trouvé que la série, c'est pas qu'elle est mauvaise, on s'entend bien, là, je dis pas qu'elle est mauvaise, mais elle est comme une espèce de vision tunnel sur ces crimes qui sont beaucoup plus larges que ce qu'on nous montre.
Christian, on va faire une pause. Au retour, il y a d'autres mystères et des énigmes de l'histoire, dont la mystérieuse femme de Torrenza. J'espère que je l'ai dit comme il faut.
Oui, la femme de Torrenza.
Torrenza, la marche des Moais.
Des Moais?
Moais, OK. Bon, tu vois.
La marche des Moais.
Donc, on en parlera au retour de ceci.
Absolument, absolument.
Donc, bougez pas, vous êtes dans les Radio X-Files sur les ondes de choix 98 à Radio X.
Radio X. Files.
Avec Christian Page.
Radio X, Morin. Live.
C'est juste le Parti québécois. C'est PKP, Bernard Drainville.
Et oublie pas Boisclair.
Boisclair, ça a été le début de la fin.
Ouais.
C'est totalement inacceptable de dire que je mange du ballonné. Pas ça, se rater le ballonné.
Il y a personne qui rate le ballonné au PQ.
Comment ça va le ballonné en prison?
Live.
Lundi au vendredi,
6h. Radio X.
Présenté par Multiconfort FP. C'est le mois de novembre, fou, fou, fou! Des rabais exceptionnels sur nos thermopompes du 1er au 30 novembre. Informez-vous.
Multiconfort FP.
En face de l'aéroport.
Hey, j'ai pas de lunch pour dîner.
Pas de stress. On se commande du fusée?
Oh yes! Moi, je prends la poitrine.
Parfait. Je prends la cuisse.
Le duo des fêtes des rôtisseries fusées. Un repas cuisse et poitrine pour $19.99 au comptoir. Des frais de livraison s'appliquent.
Puis pour 15$ de plus, on se rajoute deux desserts puis deux breuvages.
Meilleure décision de la journée.
Commandez en ligne sur rôtisseriefusée.com ou passez-nous voir à la rôtisserie la plus proche.
Rôtisserie Fusée, bon poulet, bonne humeur garantie.
Je bouge pour être bien dans mon corps et dans ma tête. Pour conserver mon autonomie, pour rester chez moi longtemps et pour continuer à jouer avec mes petits-enfants. Et bouger à mon âge, ça peut être simple. Je sors marcher dehors, je choisis parfois l'escalier plutôt que l'ascenseur ou je fais une activité qui me plaît, comme le vélo, la danse ou le tai chi. Je l'intègre à mon quotidien pour moi et pour ceux que j'aime. Bouger plus, vieillir mieux. Un message du gouvernement du Québec.
Grâce à nos petits bouffeurs de prix IGA, profitez des prix vérifiés garantis ou recevez la différence en points Saint-Plus. Jusqu'au 12 novembre, le poulet entier frais est à $1,97 le livre. IGA, vive la paix d'esprit. Valable dans les magasins participants. Détail à IGA.net.
Noël, Noël.
Visitez le plus grand centre de décoration de Noël au Canada et offrez-vous un temps des fêtes unique. Noël Amel, vous serez emballé. Maintenant ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h.
Grande vente pré-saison chez ADM Sport jusqu'à dimanche. Meilleur prix sur vêtements, pièces et accessoires de motoneige 2026. Courez la chance de gagner Ski-Doo Backcountry 2026.
ADM Sport!
Détails en succursale et sur le web.
Allô tout le monde, c'est votre sommeil. Alors, l'équipe Santé Bien-être de Dormez-vous m'a demandé de vous parler de toutes nos petites folies, parce qu'on en fait tous, hein. J'en fais des folies, vous en faites des folies vous aussi. Dormez seulement un 3-4 heures par nuit, ça c'est fou ça. Endurer un matelas fini par pure nostalgie, ça c'est très très fou ça. Mais manquer le vendredi fou alors que vous êtes tellement fatigué que vous êtes en train de virer fou, là, vous avez vraiment l'air fou.
Pendant le vendredi fou, obtenez 25% de rabais sur presque tout. Toutes ces folies, ça se passe seulement chez Dormez-vous. Des conditions s'appliquent pour un temps limité.
C'est le temps de l'entretien saisonnier. Olympia Service s'occupe de tout. Déneigement manuel, nettoyage de gouttières, installation d'abri tempo et plus encore. Olympia Service, une seule entreprise pour tous vos services. Olympiaservice.ca.
Maison Adam.
Profitez d'une expérience clé en main et des aubaines du Vendredi fou dès maintenant avec les experts de Maison Adam. Offrez-vous un téléviseur 65 pouces Neo QLED de Samsung pour seulement $1,299 avec $400 de rabais. Rendez-vous sur maisonadam.ca ou au 710 rue Bouvier pour des conseils adaptés à vos besoins et à votre budget avec la garantie du meilleur prix.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Tu veux faire partie d'une équipe jeune, dévouée et motivée? Peinture Chénard recrute. On cherche des compagnons et apprentis prêts à travailler sur des projets variés. Peinture, plâtre, époxy, tapisserie et plus encore. Joins-toi à l'équipe de Peinture Chénard et bénéficie de primes au sein des normes de la convention, d'une ambiance de travail professionnelle et dynamique et des opportunités de travailler partout au Québec. Envoie ton CV à info@peinturechenard.ca pour faire partie de l'aventure.
C'est la vente du dollar chez Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix, dont les pilons de poulet format club à 1,99 la livre, 4,39 le kilo, la douzaine 2 calibre gros à 2,99 et les bleuets à 1,77. Pas de circulaire par la poste, pas de problème. Plus de rabais en ligne sur maxi.ca.
La sexploratrice.
Sexualité, amour, relations
et beaucoup plus.
sans tabou.
La sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Tous les vendredis, 19h.
La sexploratrice. Radio X.
Présenté par Planet X. À la recherche de nouvelles sensations? Avec Planet X, explore et découvre tous les plaisirs. Planet X, 6 succursales et sur monplanetx.com.
Radio X Files
avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X Files et ce soir on parle des énigmes mystérieuses de l'histoire, dont une histoire dont je ne connais pas du tout le dénouement, qui est la femme de Torrenza, Christian Page.
Ouais. Et ça, c'est une espèce de légende urbaine qui rebondit en quelque sorte. En fait, c'est une vidéo qui est devenue virale au cours des dernières semaines dans les médias sociaux. Et l'histoire va un peu comme suit. Hein. C'est une nouvelle. On aurait arrêté, il y a quelques semaines, une femme à l'aéroport de JFK à New York. Et la femme était vêtue à la mode arabe, musulmane, donc recouverte avec les vêtements les traditionnels. Et puis, elle aurait, à ce moment-là, donné aux douaniers un passeport. Et le passeport aurait été délivré par un pays qui s'appelle le pays de Torrenza. Et, bon, t'as bien compris que le pays Torrenza n'existe pas. Et donc, la femme, au moment où les douaniers lui disent « Mais madame, ce pays-là, Torrenza, n'existe pas », et toujours selon la nouvelle qui est rapportée, là. Elle aurait été surprise et là, elle aurait dit « Mon Dieu, est-ce que je suis en Amérique? Où je suis? » Puis on lui dit qu'elle est à New York, en Amérique. Puis elle a dit « L'Amérique, hein? » Puis là, elle aurait répondu quelque chose du genre « Ce monde n'est pas le mien » ou un truc un peu comme ça. Et bon, et pourtant, son passeport, toujours selon la nouvelle, on s'entend bien, oui. Son passeport avait toutes les caractéristiques d'un passeport tout à fait authentique, avec des tampons, tout le reste, tous les éléments de sécurité sur le tampon, des timbres officiels, mais évidemment, tout ça délivré par ce pays, Torrenza, qui n'existe pas. La femme, avec ses bagages, aurait été conduite dans une salle d'interrogatoire le temps que les autorités de JFK démêlent un peu toute cet imbroglio. Et alors qu'elle est là pendant quelques heures, elle est dans une pièce où il y a une caméra. Hein. On a tous vu, là, par exemple, des interrogatoires dans des bureaux de police où on voit le suspect qui est assis à une table puis attend qu'on l'interroge. Là. Donc, il est en train un peu de cuver son vin. C'est un peu ce qui s'est passé là. Donc, on amène la femme dans une salle d'interrogatoire. Elle est assise. Elle a ses bagages avec elle. Et puis, à un moment donné, quand les policiers et les agents des douanes arrivent à cette pièce-là, toujours selon la nouvelle, j'insiste beaucoup là-dessus, là, mais lorsque les agents arrivent, ils entrent dans la pièce, pièce qui était barrée pour pas qu'elle puisse s'échapper. Et quand on entre dans la pièce, elle n'est plus là. Ah. Et là, évidemment, on s'interroge, mais où est-elle passée? Et là, apparemment, en regardant des bandes vidéo ou la bande vidéo de la caméra qui était installée dans la pièce, on voit la dame assise sur un fauteuil qui se... littéralement se désagrège, elle disparaît un peu, on dirait presque de l'électricité statique, et puis elle disparaît. Et là, ben évidemment, on se demande est-ce qu'elle venait pas d'un autre monde ou d'une autre dimension? Et là, ben évidemment, tout ça fait le buzz. Et ben je vais peut-être en décevoir quelques-uns, là, mais l'histoire de la femme de Torrenza est une pure invention. Hein. C'est une fausse nouvelle inventée avec de l'IA, tout ça. On a pu retracer la femme que l'on voit d'ailleurs. Les quelques images, on voit cette femme habillée à la mode arabe. Ben, c'est une femme, en fait, c'est un clip qu'on a repiqué d'une série de télé-réalités au milieu des années 2000 qui s'intitulait Airlines. Et la série Airlines, une série américaine, télé-réalité, c'est un peu, je pense que les gens qui nous écoutent sont peut-être habitués de voir Canal D ou d'autres stations, des émissions sur les douanes. Tu sais, là, on voit des gens qui arrivent, des télé-réalités, des gens arrivent aux douanes, puis on fouille le douane. Ben, bon, dans la série Airlines, on suivait du personnel qui travaillait dans des compagnies aériennes, puis toutes les demandes un peu étranges auxquelles ils devaient faire face, puis les situations un peu ambiguës. Donc, et cette femme femme, elle apparaît dans une de ses émissions. Donc, on a simplement récupéré les quelques images où on la voit marcher dans l'aéroport. On les a récupérées, puis on a inventé avec l'IA, on a inventé une espèce d'histoire autour, on l'a remis en scène, et voilà l'histoire de la dame, la femme de Torrenza. Donc, si tu vois passer ça dans tes médias sociaux, je te le dis tout de suite, cette histoire-là est purement inventée. Mais cette histoire-là, en fait, n'est rien de plus qu'une reprise d'une autre histoire assez semblable qu'on appelle l'homme de Torred. Et l'homme de Torred, hein, je te raconte l'histoire, tu vas sûrement trouver des points très, très communs. Hein. L'histoire va comme suit, là, pour ce qui est de l'homme de Torred. On raconte qu'en 1954, il y a un voyageur qui se présente à l'aéroport Haneda au Japon. Et là, au moment où il passe au guichet là, des douaniers, il sort un passeport et son passeport a été émis par les autorités de Torred. Et l'homme explique que, ben là, évidemment, le douanier est un peu surpris. Lui dit, c'est où ça, Torred? Et là, l'homme en question dit, ben, Torred, c'est un petit pays qui est situé entre l'Espagne et la France. Et le douanier lui dit, mais là, il dit, c'est pas le petit pays entre la France et l'Espagne. Il dit, c'est la principauté d'Andorre. Vous voulez dire Andorre? Il dit, non, non. Il dit, Torred. Il dit, Andorre. Hein? Il se montre un peu surpris. Andorre, la principauté d'Andorre. J'ai jamais entendu parler de ça. Lui dit que son pays, c'est Torred. Et là, dans ses poches, on est surpris parce qu'il a dans ses poches des devises, toujours selon cette espèce de légende. Là. Et il a dans ses poches de nombreuses coupures. Des billets, des devises qui viennent de plusieurs pays. L'homme est également polyglotte. Il parle plusieurs langues. Il dit qu'il est au Japon pour une réunion d'affaires. Il parle le japonais, d'ailleurs. Il s'exprime avec les gardiens. Et puis là, à ce moment-là, bien, comme on voit qu'on n'arrive pas à démêler l'imbroglio de cet homme de Torred et où est Torred et qu'est-ce que c'est que ce pays, alors on lui demande, on l'accompagne dans un hôtel qui est situé juste en face de l'aéroport et on le place dans une chambre qui est fermée à clé. Hein, ça, c'est un peu comme notre femme qui est placée dans sa salle de détention. Ah oui, donc on le met chose. Dans une chambre fermée à clé, ouais. Et à ce moment-là, à la fois la porte est verrouillée et également la fenêtre est verrouillée. Fenêtre, de toute façon, même si elle n'était pas verrouillée, la possibilité de s'y échapper était un peu nulle parce que la chambre est située au 10e étage de l'hôtel, puis il n'y a pas de balcon, là. Donc, et le lendemain, donc l'homme est gardé là pendant 24 heures, le temps que les autorités nippones travaillent sur ce dossier pour savoir d'où est ce pays Torred. Et éventuellement, ben, comme il ne trouve rien, le lendemain, il décide de retourner à l'hôtel pour interroger à nouveau notre bonhomme. On entre dans la chambre, on déverrouille la porte, on entre dans la chambre et on s'aperçoit que l'homme a tout simplement disparu. Et comme je l'ai mentionné, il n'aurait pas pu sortir par la fenêtre, d'abord qui était verrouillée, mais qui donnait sur le 10e étage. Et évidemment, la porte étant verrouillée de l'extérieur, il ne pouvait pas sortir de la chambre de l'hôtel. Donc, le mystère de l'homme de Torred, c'est cette histoire-là, qui est aussi une pure invention. C'est une espèce de légende urbaine. Et là, si on recule encore plus loin, on réussit à savoir d'où vient cette histoire. Parce que cette histoire de l'homme de Torred, même si l'événement le situe en 1954, l'histoire ne va apparaître dans la littérature fantastique et mystérieuse. Parce que tu comprends, l'homme de Torred devient soudainement... Est-ce que ce ne serait pas un voyageur du temps, un homme d'une autre dimension? T'sais, on essaie de comprendre. Là. Et cette histoire-là ne va apparaître qu'à la fin des années 60. Mais si on est, si on fait preuve un peu de scepticisme et on commence à éplucher un peu la littérature, les journaux, on trouve une histoire bien réelle, celle-là, qui est peut-être la source à la fois de la légende. Il est clair que la femme de Torrenza est une inspiration, une pure invention inspirée de l'homme de Torred. Mais d'où vient l'histoire de l'homme de Torred? Et quand on fouille dans la littérature et les journaux, on trouve un petit fait divers qui pourrait être à l'origine de cette histoire-là. Et là, je te raconte la vraie histoire. La vraie histoire va comme suit. Hein, c'est un article, on connaît cette histoire-là parce qu'elle a fait l'objet d'un article publié notamment dans le journal The Province, un journal de la Colombie-Britannique. Et l'article est paru en août 1960. Et l'histoire va comme suit. En octobre 1959, il y a un certain John Allen Cougar Zegras, qui se présente à l'aéroport de Tokyo au Japon. Hein, tu vois, l'homme de Torred, lui, est à l'aéroport d'Haneda au Japon, mais dans la réalité, notre fait divers se passe plutôt à l'aéroport de Tokyo. Donc, en octobre 59, il y a ce John Zegras qui se présente là-bas. Il est accompagné de sa femme qui vient de mémoire, je crois, elle est coréenne ou Vietnam, bref, sud-est asiatique. Il se présente là et il présente un passeport. Et son passeport est émis par les autorités de Tamanrasset. Et Tamanrasset, c'est la capitale de Tuareg. Et là, tu vois, l'homme de Tuareg, et lui, il présente un passeport de Tuareg. Ouais, hein, tu vois, même la connaissance est proche. Là. Et donc, il dit, bon, la capitale est Tuareg, puis c'est un pays, ce qu'il explique aux douaniers, c'est un pays qui est situé au sud du Sahara. Et l'homme, évidemment, est grandiloquent. Il dit qu'il est originaire, il est né aux États-Unis, et il a la citoyenneté éthiopienne, il a travaillé un peu partout dans les pays du Maghreb et tout ça. Il a même été agent pour les services de renseignement du colonel Nasser, qui a été le président d'Égypte, là, mais en fait, c'est la Fédération des pays arabes. Là. Bon. Mais, donc, tu vois, il est très grandiloquent, il raconte tout ça. Mais les autorités japonaises, oui, oui, c'est bien beau, là, toute ton histoire, mais Tuareg, ça n'existe pas, ce pays-là. Et le passeport, elle l'a tellement vrai, écoute. Le passeport est même accompagné, là, il est émis par les autorités de Tuareg. Il y a même un tampon, c'est un faux passeport, on a bien compris, mais il y a même un tampon, écoute, avec une phrase. Tu sais, des fois, tu as comme un tampon, puis là, autour, hein, sur la circonférence du tampon, il y a comme une espèce de phrase écrite en latin ou dans la langue du pays. Là, c'est un peu la même chose. Il y a le tampon du pays Tuareg avec une phrase écrite autour du tampon qui est dans une langue tout à fait inconnue. Écoute, c'est une histoire à dormir debout. Finalement, il va passer les douanes et là, il va essayer d'encaisser des chèques de voyage à Tokyo. En tout cas, l'affaire est un peu étrange. Il va être arrêté finalement par les autorités. Il va être condamné. Sa femme va être retournée dans son pays. Lui va être condamné pour fabrication de faux et il va être accusé à une année de prison et après à être libéré. On va le déporter après et on perd sa trace ensuite. Mais bon, quand on regarde les éléments de cette histoire-là, hein, un faux passeport émis au nom émis par les autorités d'un pays qui s'appelle Tuareg, un pays qui n'existe pas, un individu qui se dit un agent espion pour le colonel Nasser. Donc, on est ici dans des éléments qu'on voit, qu'on va reprendre dans l'histoire de l'homme de Tuareg, tu comprends? Et donc, visiblement, l'histoire de cet escroc, ce John Allen Cougar Zegras, qui s'appelait, de son nom complet, ben, l'histoire de cet escroc est visiblement ce qui a inspiré, ce qui va inspirer en fait 10 ans plus tard, ou pratiquement 10 ans plus tard, des amateurs de récits un peu de fiction, pseudo-réalité fiction, pour inventer le mythe de l'homme de Tuareg, qui lui va apparaître, comme je l'ai mentionné, fin des années 60, début des années 70, dans une espèce de littérature consacrée à l'étrange et l'insolite. Hein, il devient une espèce de voyageur du temps. Et ensuite, ben, visiblement, au cours des dernières semaines, le mythe est rebondi avec l'histoire de cette femme, de la femme de Torenza. Donc voilà une belle histoire qui nous montre comment un simple fait divers d'un escroc va devenir une histoire un peu à sensation dans l'univers du surnaturel. T'sais.
On reprend des histoires vraies qui en deviennent des légendes carrément.
Oui, puis là, elles deviennent tellement déformées qu'on n'arrive plus à comprendre quel était le récit original.
Le fameux jeu du téléphone.
Tout à fait, tout à fait. Puis en même temps, le récit fantastique, il est plus intéressant. C'est plus intéressant de croire ou d'imaginer un espèce de voyageur du temps qui arrive avec un passeport émis par un pays qui n'existe pas que d'imaginer un simple escroc avec un faux passeport. D'ailleurs, faut quand même le dire, hein, notre dénommé Zegras, quand on regardait son passeport émis par le fameux pays Tuareg qui n'existe pas, mais il y avait quand même plein de tampons. Hein. Il avait voyagé en France, en Angleterre, dans les pays du Maghreb, en Asie, et aucun douanier n'avait eu jugé bon de vérifier si ce pays-là existait pour de vrai. Donc, c'est... parce que, bon, évidemment, on ne peut pas... C'est un peu normal que les douaniers ne puissent pas connaître, parce qu'au moment où on se parle, là, en 2025, là, on a, grosso modo, de mémoire, je pense que c'est 195 pays. Mais bon, même si t'es un douanier, je doute que tu puisses connaître le nom des 195 pays à travers le monde. Tu sais, il y a des petites principautés, des petits pays qui sont tout à fait minuscules, qu'on ne connaît pas. Fait que, tu sais, lui, le douanier, il ouvre le passeport, puis bon, il est mis par Tuareg. Il a vraiment entendu parler de ça, mais tu sais, il veut pas montrer quand même son ignorance. « Hey, c'est où, c'est toi, Red? » Fait qu'il fait semblant. Moi, le passeport a de l'air en règle, puis il tamponne. Merci, bonsoir. Mais ça nous montre que Zegris est un fiefé filou, hein, avoir fait un faux passeport d'un pays qui n'existe pas et d'avoir voyagé un peu à travers le monde, comme ça, en dupant les agents douaniers de tous ces pays-là. C'était quand même... Il fallait quand même le faire.
Absolument.
Ça me rappelle un peu cet escroc qui a servi un peu de canevas au film Attrape-moi si tu peux, je pense, le film de Spielberg.
Oui.
Il est passé pour un pilote d'avion, puis tout le reste, puis qu'il y avait un médecin, un pilote d'avion et tout ce que tu voudras, puis que finalement, il n'était qu'un escroc qui s'inventait des personnalités et différents personnages.
Oui, puis il imprimait de faux chèques aussi, puis ce qui est intéressant. Oui, lui, ça y allait, là. Puis la finale de ce film-là était tournée à Québec, quand même.
Oui, absolument. Ouais. Fait que, c'est un peu c'est ça. Donc, on voit qu'on peut récupérer ces fameuses histoires pour alimenter des récits un peu plus fantastiques dans l'univers de l'étrange et du surnaturel.
Il reste environ 5 minutes, Christian. Je ne sais pas si tu veux parler de La Marche des Moines ou d'Amelia Earhart.
Ben, je vais parler d'Amelia Earhart parce qu'on en avait parlé il y a quelques semaines. Donc, et je sais que quelqu'un m'a écrit en privé, me disait « Avez-vous des nouvelles? »
Ouais.
Donc, des nouvelles, on en a. Pas forcément les nouvelles qu'on aurait voulu, mais bon, rappelons que au moment où on se parle, ou au cours des dernières semaines, il y a eu toutes sortes de discussions à propos d'une expédition qui était financée par le Purdue Research Foundation, qui est associée à l'Université Purdue en Indiana, et ainsi que l'Institut de l'héritage archéologique, qui avait annoncé qu'il souhaitait, pour le mois de novembre, donc maintenant, ils souhaitaient se rendre sur l'île de Nikumaroro. C'est un petit atoll qui se trouve dans les îles Phoenix. On est dans le Pacifique austral. Et parce que, en fouillant dans des photographies prises par satellite il y a quelques années, au lendemain d'un typhon et d'ouragan, le sol, la plage près de l'île de Nikumaroro, qui est une île abandonnée, là, qui est une île pas abandonnée, mais déserte. Le sable, le fond marin avait changé, puis on semblait voir des espèces de formes dans le fond de la mer, tout près du rivage. Et ça a relancé le débat sur la disparition d'Amelia Earhart. Amelia Earhart, une aviatrice américaine, disparue le 2 juillet 1937 alors qu'elle tentait de faire le tour du monde et qui est devenue une des grandes énigmes de l'histoire de l'aviation. Et depuis, il y a plein d'expéditions qui se sont multipliées dans l'espoir de retrouver les restes d'Amelia Earhart et de son navigateur, un certain Fred Noonan, ou à tout le moins des restes de l'appareil qui nous permettraient de clore le débat à savoir que s'est-il passé au moment de la disparition d'Earhart. Parce que vraiment, on est ici dans un mystère un peu digne du Triangle des Bermudes. Et ces photographies, il faut dire quand même que l'île de Nikumaroro était une destination si toi, tu t'étais trouvé au-dessus de la mer dans l'espoir d'atterrir sur l'île Holland, ce que cherchait à faire visiblement Amelia Earhart, et que tu te sois perdu, l'île de Nikumaroro serait vite devenue un choix, un candidat intéressant pour tenter un amérissage. Et plusieurs expéditions sont allées dans l'île de Nikumaroro avec des échecs. Hein, ils n'ont rien ramené qui permettait de conclure de manière définitive que Amelia Earhart s'était posée ou avait améri près de l'île et avait peut-être survécu à ce crash d'avion. Mais néanmoins, l'île de Nikumaroro demeure très prisée par les amateurs de l'énigme d'Amelia Earhart. Et donc, ces photographies prises par satellite semblaient montrer près du rivage, des formations qui rappelaient vaguement le fuselage d'un avion. Et là, donc, on s'était dit, on va s'y rendre. C'est quand même une opération, hein. On a quand même une enveloppe de 900 000 $, là, presque 1 million, là, pour mener cette expédition. Mais bon, on devait partir quelque part début du mois de novembre. Et il y a 2 jours, le Purdue Research Foundation ont émis un communiqué disant que finalement, ils devaient repousser à 2026. Quelque part là, au printemps 2026, cette fameuse expédition pour 2 raisons. D'abord, le retard à obtenir les visas et les autorisations du gouvernement des Kiribati, parce qu'il faut savoir que l'île de Nikumaroro est sous le contrôle du gouvernement de, des Kiribati, hein, qui en fait, qui regroupe un ensemble d'archipels. Et donc, il y a eu du retard dans l'émission des visas, des documents nécessaires à l'obtention des permis. Et donc, et à cause de ça, s'il devait partir, il n'aurait pu partir qu'à la fin du mois de novembre, ce qui les amène à ce moment-là à la période des ouragans et des typhons dans le Pacifique austral. Ce qui n'est pas nécessairement la meilleure période pour mener ce genre d'aventure. Et d'autant plus que, selon leur plan de match, ils doivent d'abord se rendre aux îles Marshall, et des îles Marshall, ils vont affréter un navire qui va les amener jusqu'à l'atoll de Nikumaroro. Et à ce moment-là, on va naviguer pendant 6 jours. Entre 4 et 6 jours. Mais tu comprends, si tu prends la mer pendant 4 à 6 jours et tu es en pleine période des ouragans et des typhons, c'est pas non plus l'idéal. Donc, pour toutes ces raisons, le projet n'est pas abandonné. D'ailleurs, les autorités, les responsables de cette fameuse expédition ont clairement annoncé qu'ils restaient très optimistes, assez convaincus que ces fameuses photographies satellites montrent bel et bien des vestiges de l'avion d'Emilio Earhart, qui était un appareil assez particulier. Là, c'était un Lockheed Electra 10E avec une double empennage sur l'aileron de queue. Et donc, assez caractéristique. Donc, il reste convaincu que les débris que l'on voit sur les photographies, ou les formes que l'on voit, hein, débris peut-être un peu optimiste, mais enfin, les formes que l'on voit seraient peut-être des vestiges de l'appareil. Et donc, ils sont très enthousiastes que dès le printemps 2026, ils vont remettre la table pour mener cette expédition vers l'île de Nikumaroro et peut-être ainsi mettre un terme à l'une des plus grandes énigmes du mystère de l'aviation. Énigme d'ailleurs, hein, l'affaire Emilio Earhart, faut quand même le préciser. Si on avait posé la question à des experts dans le domaine de l'aviation, la disparition d'Emilio Earhart aurait été probablement l'énigme numéro un jusqu'à la disparition il y a une dizaine d'années maintenant, de l'appareil, le MH370 de la Malaysia Airlines, dont on n'a jamais retrouvé, on a retrouvé quelques débris, mais jamais le corps principal de l'appareil, malgré de nombreuses recherches le menant en mer. Donc, oui, la disparition du MH370 de la Malaysia Airlines demeure l'énigme numéro un du domaine de l'aviation, mais juste en dessous, hein, détrôné depuis peu, la disparition d'Emilio Earhart, et espérons que cette expédition de 2026 va apporter des résultats positifs et qui nous permettra de clore le livre sur la disparition d'Emilio Earhart.
Nous serons patients, Christian Page.
Oui, absolument.
Oui.
Une énigme qui me fascine depuis longtemps.
Oui, oui.
J'ai chez moi le 2-3 avions, 2-3 modèles de l'avion d'Emilio Earhart. Là, ça figure dans mes grandes énigmes de l'histoire, ça, la disparition d'Emilio Earhart.
Qui sait, peut-être qu'elle va prendre fin, comme tu le disais, en 2026. C'est tout le temps qu'on a pour le Radio X-Files de ce soir. Il me reste à te souhaiter un bon week-end. J'espère que tu vas célébrer le fait qu'on soit encore en vie. Je t'entendais hier dans le retour, rapidement, dire que...
Pas zappé par les extraterrestres, non, l'invasion,
c'est ça.
Non? Fait que oui, je célèbre toujours.
Parfait, c'est très bien. Puis écoute, on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission.
Absolument. Bon week-end à toi.
Merci, bon week-end.
Salut.
Donc, c'était les Radio X-Files sur les ondes de choix 98h Radio X. Bougez pas après la pause, c'est la sexploratrice.
This is not a test.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X. Good morning. Québec.
Good morning, sunshine.
Avec Doom Dumas. Lundi au vendredi.
5h30. Québec.
Radio X.
Présenté par Lunetterie Bellan. En novembre, achetez une paire de lunettes avec verre progressif et recevez la deuxième paire de verre gratuitement. Lunetterie Bellan, service qualité bas prix.
Obtenez 20 ou 30 000 points chez Pharmaprix. Une valeur de 20 ou 30 $. Ouvrez votre appli PayCeptimum, magasinez et scannez. Ce vendredi et samedi, conditions dans l'appli.
Pour améliorer votre qualité de vie et vous redonner confiance, les implants dentaires sont la solution. Dr Steve Bernier, spécialiste et expert en implants dentaires. DrStiveBernier.com, 418-835-5858.
Cet automne chez Stratos, ce ne sont pas que les feuilles qui tombent, les prix aussi. Jusqu'à la fin novembre, profitez de rabais sur vos classiques préférés. Pizza, poutine et bien plus encore. En prime, découvrez notre nouveauté de la saison. La pizza américaine. Une version plus légère de nos pizzas traditionnelles, toutes garnies pepperoni fromage, offerte en format large pour seulement $24,99. Ça, c'est du fun en automne, signé Stratos. Certaines conditions s'appliquent. Détails sur stratospizzeria.com.
Vous connaissez Osborne? Posez Osborne. Les poêles et foyers Osborne. Ils sont fabriqués à Saint-Augustin et ils sont à rabais chez Nauréa Foyer Napère. Par exemple, le Osborne 3300 qui chauffe 2300 pieds carrés, normalement vendu 4000 $ est réduit à 2899 $. Il y a aussi le Osborne Everest qui chauffe 2500 pieds carrés, normalement vendu 6000 $ réduit à 3999 $. Détail chez Nauréa Foyer Napère à Sainte-Marie et Nauréa Foyer Napère signature sur Pierre Bertrand à Québec.
Le Salon de la motoneige et du quad de Québec, présenté par Beneva, c'est pour tout le monde, autant les débutants que les passionnés.
Ah, ouais?
Oui, parce que sur place, il y a des centaines de motoneiges et quad neufs et d'occasion.
Cool! Et est-ce que je vais pouvoir magasiner?
Oh que oui! Des vêtements, des accessoires et même des séjours avec randonnée. Et comme c'est le seul salon de l'industrie au Québec...
Ah, oh ben là, c'est sûr qu'on y va!
De vendredi à dimanche, au Centre de foire d'Expo-Cité, place au Salon de la motoneige et du quad de Québec, présenté par Beneva.
John Pro, c'est votre partenaire de confiance en entretien ménager commercial. Que ce soit pour votre entreprise, une clinique, une garderie, un bureau et bien plus, comptez sur John Pro. Que vos besoins en ménage soient petits ou gros, le nom à retenir, c'est John Pro. J-A-N, trait d'union, P-R-O.
Hey Simon, Luc est tombé de l'échafaudage. Viens, j'ai besoin d'aide.
C'est parce que je suis vraiment dans le jus.
Il y a du sang partout, vite!
Écoute, je le connais bien cet échafaudage-là, pis c'est pas son genre de blesser le monde. Faudrait peut-être que Luc arrête de dramatiser.
Ben là, faut faire quelque chose.
Bah... J'aime mieux pas m'en mêler. C'est pas vraiment de mes affaires.
Si on réagissait face aux blessures physiques comme on le fait trop souvent face aux blessures psychologiques, on verrait à quel point c'est absurde. Ensemble, agissons pour que nos milieux de travail soient sains pour tous. Un message de la CNESST.
Vous avez dévalisé nos disques Breakmax et plaquettes Bosch. Bonne nouvelle! Pièces d'auto économiques prolongent les rabais tout le mois de novembre. Les disques de frein Breakmax qualité première et les plaquettes de frein Bosch sont à 10 % de rabais. Les essuie-glaces Rain-X à 20 % de rabais et nos batteries pièces d'auto économiques à 10 % de rabais. L'hiver approche. Passez nous voir. Pièces d'auto économiques, 9 magasins, 5 centres de distribution et un site transactionnel. Pièceséconomique.com.
Dès le premier matin où vous déciderez que vos dettes ne vous empêcheront plus de dormir, nous serons là pour vous.